Épilogue. Susanna à New York. Personne ne s'affole lorsque la petite voiture électrique surgit de nulle part, centimètre par centimètre, jusqu'à se retrouver entièrement au beau milieu de Central Park. Personne d'autre que nous ne la voit. La plupart des gens présents lèvent la tête car les premiers flocons de ce qui se révélera une gigantesque tempête de neige d'avant Noël descendent du ciel blanc en tourbillonnant. La grande tempête de 1987, comme l'appelleront ensuite les journaux. Les visiteurs du parc, qui ne se promènent pas le nez en l'air, regardent les chanteurs de Noël venus des écoles privées des quartiers chics de la ville. Ils portent ou bien des blazers rouges sombres, pour les garçons, ou des pulls rouges sombres, pour les filles. C'est le cœur de l'école de Harlem qu'on appelle aussi les Roses de Harlem dans le Poste, ou son rival dans la presse populaire, le New York Sun. Ils chantent un de ces vieux hymnes sur un rythme doo-wop très harmonieux, en claquant des doigts à chaque changement de couplet, et on dirait un morceau des Spurs, des Coasters ou des Dark Diamonds, première époque. Ils se tiennent non loin du coin où les ours polaires mènent leur petite vie dans ces contrées urbaines, et leur chanson du moment s'intitule « What Child Is This ?». L'un des passants, le nez en l'air, est un homme bien connu de Susanna, et son cœur bondit jusqu'au ciel à sa simple vue. De la main gauche, il tient un gros gobelet en carton et elle est certaine qu'il contient du chocolat chaud, le parfait chocolat Mitschlag. Pendant un instant, elle est dans l'incapacité totale de toucher les commandes de la voiturette venue d'un autre monde. Les souvenirs de Roland et de Patrick ont quitté son esprit. Elle ne pense qu'à Eddie. Eddie sous ses yeux, ici et maintenant. Eddie ressuscité. Et si ce n'est pas le monde clé, pas tout à fait, qu'est-ce que ça peut faire? Si Co-op City se trouve à Brooklyn ou même dans le Queens, et qu'Eddie conduit une Takuro Spirit plutôt qu'une Buick Electra, qu'est-ce que ça peut faire? Aucune importance. Une seule chose compte. Et c'est cette question qui la retient d'appuyer sur l'accélérateur et de diriger la voiture vers lui. Et s'il ne la reconnaît pas? Et si en se retournant, il ne voit rien d'autre qu'une sans-abri noire dans un fauteuil électrique dont la batterie sera bientôt aussi plate qu'une limande. Une noire sans argent, sans vêtements, sans adresse. En tout cas, pas dans ce où et dans ce quand, grand merci Saïe. Et sans jambes. Une sans-abri noire sans aucun lien avec lui. Et s'il la reconnaît bel et bien dans un recoin reculé de sa mémoire, mais qu'il la renie complètement, comme Pierre a renié Jésus parce que le souvenir fait trop mal. Pire encore. Et s'il se retourne vers elle avec ce regard vide, cramé, bousillé du drogué de longue date. Et si, et voici venir la neige qui va vêtir le monde entier de blanc.
Arrête de pleurnicher. « Et rejoins-le, » lui dit Roland. « Tu n'as pas affronté Blaine et les Taïnes du Paradis Bleu et cette chose sous le château Discordia pour battre en retraite maintenant, n'est-ce pas? Tu as bien un tantinet plus de cran que ça. »
Mais elle n'en est pas si certaine. Jusqu'au moment où elle voit sa propre main se diriger vers l'accélérateur. Mais avant qu'elle ait pu l'actionner, elle entend de nouveau la voix du pistolero s'adresser à elle, avec cette fois-ci une pointe de lassitude amusée.
« Il y a peut-être quelque chose dont tu souhaites te débarrasser avant, Susanna ?»
Elle baisse les yeux et voit l'arme de Roland accrochée à son ceinturon, comme un pistolet de bandido mexicain ou un sabre d'abordage de pirate. Elle le détache et se réjouit du contact dans sa main, de ce contact brutal, irremplaçable. Et elle se rend soudain compte que s'en séparer serait comme se séparer d'un amant. Et elle n'est pas obligée, si? La vraie question est, qu'aime-t-elle le plus? L'homme ou l'arme? Tous les autres choix découleront de celui-ci. Instinctivement, elle fait tourner le barillet et constate que les balles à l'intérieur paraissent vieilles et usées.
« Elles ne partiront jamais, » se dit-elle.
Et sans savoir d'où lui vient cette certitude, ou quel en est le sens précis.
« Elles sont mouillées. »
Elle examine le barillet en le soulevant devant la lumière, et une étrange tristesse la gagne. Mais pas de surprise, cependant, lorsqu'elle constate qu'elle ne passe pas à travers. Tout est bouché, et depuis des décennies à l'œil. Cette arme ne tirera plus jamais. Le choix s'impose de lui-même, en fin de compte. Ce pistolet n'est plus. La main toujours serrée autour de la crosse en bois de santal du revolver, Susanna enclenche la marche avant de l'autre main. La voiturette électrique, qu'elle a baptisée Ofat 3, bien que déjà ce souvenir s'estompe, se met à avancer en silence. Elle passe devant une poubelle verte cylindrique portant l'inscription « Ne pas renverser » sur le côté. Elle jette le revolver de Roland dans cette poubelle. Ce geste lui fend le cœur, pourtant elle n'a pas une seconde d'hésitation. Il est lourd, aussi coule-t-il directement au fond, au milieu des emballages chiffonnés de hamburgers, des prospectus et des journaux périmés comme une pierre au fond d'une mare. Il reste en elle assez du pistolero pour regretter amèrement la perte d'une arme à l'histoire aussi riche, même si l'ultime voyage entre les mondes a finalement eu raison d'elle. Mais elle est déjà assez imprégnée de la femme qu'elle va devenir et qui l'attend pour ne pas regarder en arrière une fois la tâche accomplie. Avant qu'elle soit arrivée à la hauteur de l'homme au gobelet, il se retourne. Il porte en effet un sweatshirt arborant l'inscription « Je bois du Nosala ». Mais elle le remarque à peine. C'est bien lui. Voilà ce qu'elle remarque. C'est bien Edward Cantordine. Et même cette évidence devient secondaire, parce qu'elle voit dans ses yeux tout ce qu'elle redoute. La perplexité totale. Il ne la reconnaît pas. Puis, d'un air timide, il sourit, et c'est le sourire qu'elle se rappelle. Celui qu'elle a toujours aimé. Et il est clean, elle le voit immédiatement, elle le voit à son visage. Elle le voit à ses yeux, surtout. Les chanteurs du chœur de Harlem chantent et lui tend son gobelet de chocolat chaud.
« Dieu merci, » dit-il. « Je venais juste de décider de le boire moi-même, que les voix s'étaient trompées et que j'étais vraiment en train de devenir fou, que... Eh bien... »
Il ne sait comment poursuivre. Il n'a pas seulement l'air perplexe, il a l'air d'avoir peur.
« Écoutez, vous êtes venu pour moi, n'est-ce pas ? Je vous en prie, dites-moi que je ne suis pas en train de passer pour un imbécile complet, parce que, mademoiselle, là je me sens aussi nerveux qu'un chat à longue queue dans une pièce remplie de rocking chair. »
« Non, » dit-elle, « vous n'êtes pas en train de passer pour un imbécile, je veux dire. »
Elle se rappelle l'histoire de Jake, de ses voix qu'il entendait se battre dans sa tête, l'une criant qu'il était mort, l'autre qu'il était vivant, toutes les deux absolument convaincues. Elle a une petite idée du calvaire que ce doit être, parce que côté voix dans la tête, elle en connaît un rayon, côté voix étrange.
« Dieu merci, vous vous appelez bien Susanna ?»«
Oui, je m'appelle bien Susanna. »
Elle sent sa gorge terriblement sèche, mais au moins les mots finissent par sortir. Elle lui prend le gobelet des mains et avale une gorgée de chocolat à travers la couche de crème. C'est doux et sucré. C'est un goût de ce monde. Les bruits de klaxon des taxis la réconfortent aussi, tandis que les chauffeurs s'empressent d'aller chercher des courses avant que la neige les en empêche. Le sourire aux lèvres, il tend la main et lui essuie une touche de crème sur le bout du nez. Le contact de leur peau est électrique, et elle voit que lui aussi le ressent. Il lui vient à l'esprit qu'il va l'embrasser de nouveau pour la première fois et faire de nouveau l'amour avec elle pour la première fois et tomber de nouveau amoureux d'elle pour la première fois. Peut-être sait-il tout ça, car les voix le lui ont dit, mais elle le sait pour une bien meilleure raison, parce que tout ça s'est déjà produit. « Le cas est une roue, » disait Roland. et maintenant elle comprend qu'il disait vrai. Ses souvenirs de l'entre-deux-monde, du où et du quand du pistolero se font de plus en plus flous, mais elle pense pouvoir se rappeler juste ce qu'il faut pour savoir que tout s'est déjà produit, et qu'il y a dans cette certitude une insondable tristesse. Mais en même temps, c'est bien. C'est un fichu miracle, voilà ce que c'est.
« Vous avez froid ?» demande-t-il.
« Non, ça va. Pourquoi ?»«
Vous avez frissonné.
C'est la douceur de la crème. »
Puis, tout en le regardant, elle sort le bout de sa langue et se lèche doucement la lèvre, essuyant un petit peu de crème saupoudrée de noix de muscade.
« Si vous n'avez pas froid maintenant, ça va venir. La chaîne météo annonce une chute de température de 7 degrés ce soir. Alors je vous ai acheté quelque chose. »
De la poche arrière de son jean, il sort un bonnet de laine, du genre qu'on tire sur les oreilles pour se protéger du froid. Elle regarde le devant du bonnet et contemple les mots tricotés en rouge. « Joyeux Noël !»«
Je l'ai acheté chez Brandios, sur la 5e avenue, » dit-il.
Susanna n'avait jamais entendu parler de Brandios. De Brentanos, à la limite, la librairie, mais pas de Brandios. Mais il est évident que dans l'Amérique où elle a grandi, elle n'a jamais entendu parler non plus de Nozala ou de voiture Takuro Spirit.
« Ce sont tes voix qui t'ont dit de l'acheter ?»
dit-elle pour le titiller gentiment. Il rougit.
« En fait, en quelque sorte, oui. Essaie-le pour voir. »
Il lui va parfaitement.
« Dis-moi une chose, » demande-t-elle. « Qui est président ?»
« Tu ne vas pas me dire que c'est Ronald Reagan, pas vrai ?»
Il la fixe d'un air totalement hébété pendant une seconde, puis affiche un grand sourire.
« Quoi ? Ce vieil acteur des jours de la vallée de la mort à la télé ? Tu plaisantes, pas vrai ?»«
Non,
c'est moi qui ai toujours cru que tu blaguais à propos de Reagan, Eddie. »«
Je comprends pas ce que tu veux dire. »«
Peu importe. Dis-moi juste le nom du président. »«
Gary Hart. » dit-il, comme s'il s'adressait à un enfant. « Du Colorado, il a bien failli quitter la course en 1980. »« T'es au courant, je suis sûr, à propos de cette histoire à bord du Monkey Business, une croisière avec une mannequin bidon. Alors il a dit qu'ils aillent se faire foutre s'ils ne sont pas capables d'apprécier une bonne blague. » Et il a tenu bon, et il a fini par remporter une victoire écrasante.
Son sourire se dissipe légèrement tandis qu'il l'observe.
T'es pas en train de te moquer de moi, n'est-ce pas ?
Et toi ? Tu te moques de moi avec ces histoires de voix ? Celles que tu entends dans ta tête ? Celles qui te réveillent à 2 heures du matin ?
Eddie prend presque un air choqué.
Comment t'es au courant de tout ça ?
C'est une longue histoire. Peut-être que je te raconterai un jour, si je m'en souviens encore,
se dit-elle.
Il n'y a pas que les voix, ajoute-t-il.
Ah non ?
Non. Je rêve de toi, depuis des mois maintenant, je t'attends. Écoute, on ne se connaît pas, c'est de la folie.
Mais t'as un endroit où aller ?
Non, pas vrai.
Elle secoue la tête. Elle tente une imitation assez convaincante de John Wayne, ou c'est peut-être Blaine le Mono qu'elle imite.
J'ai que ma caisse pour seul ami ici, mon gosse.
Elle sent son cœur qui bat lentement et lourdement dans sa poitrine, mais une grande joie la gagne doucement. Tout ira bien. Elle ne sait pas par quel miracle, mais oui, tout ira bien. Cette fois-ci, le cas travaille pour elle, et la force du cas est incommensurable, et ça, elle le sait d'expérience.
Si je demandais d'où je te connais, ou d'où tu viens,
il marqua une pause, la regarde sans ciller, puis lâche le reste.
« Oh, comment je peux t'aimer déjà ?»
Elle sourit. C'est bon de sourire, et ça ne lui fait plus mal à la joue, en dépit de ce qui lui est arrivé. Une cicatrice, quelque chose dans ce genre-là, elle ne se rappelle pas vraiment. En tout cas, ce qu'il y avait là a disparu.
« Trésor, »
lui répond-elle.
« Comme je le disais, c'est une longue histoire. Tu en connaîtras un bout, toutefois, ce que je réussirai à me rappeler. Et il est bien possible qu'on ait encore du pain sur la planche.
pour une boîte du nom de la TED Corporation. Elle regarde autour d'elle et ajoute « On est en quelle année ?»«
1987. »«
Et tu vis à Brooklyn ou dans le Bronx, peut-être ?»
Et ce jeune homme, que ses rêves et ses voix intérieures qui se chamaillent l'ont conduit jusqu'ici, avec un gobelet de chocolat chaud à la main et un bonnet de laine Joyeux Noël dans la poche arrière de son pantalon, éclate d'un bon rire franc.
« Oh là non, je suis de White Plains. Je suis venu en train avec mon frère. Il est là, juste à côté. Il voulait voir les ours polaires de plus près. »
Le frère, Henry, le grand sage et éminent junkie, son cœur se serra.
« Je vais vous présenter. »
« Non, vraiment, je...
Hey, si on doit être amis, il faut que tu sois ami avec mon petit frère. On est comme les deux doigts de la main. Jake, hey Jake !»
Elle n'avait pas remarqué le garçon debout près de la rambarde qui entoure la fosse des ours blancs. Mais maintenant qu'il se retourne, le cœur de Susanna fait un looping vertigineux. Jake fait un signe de la main et s'approche d'eux d'un pas tranquille.
« Jake aussi rêve de toi, » lui apprend Eddie. « C'est la seule raison qui fait que je sais que je ne deviens pas fou. Pas plus fou que d'habitude, je veux dire. »
Elle prend la main d'Eddie. Cette main familière qu'elle aime tant. Et lorsque ses doigts, lui, se referment autour des siens, elle croit mourir de bonheur. Elle va avoir tout un tas de questions à leur poser, et eux aussi, mais pour l'instant, une seule lui paraît importante. Et tandis que la neige commence à tomber plus drue autour d'eux, venant se poser sur les cheveux d'Eddie et sur ses cils et sur les épaules de son sweatshirt, elle prend son élan et la pose.
« Quel est votre nom de famille, à toi et à Jake ?»«
Thoren, » répond-il. « C'est allemand. »
Avant qu'ils aient pu ajouter quoi que ce soit, Jake est près d'eux. Et vous dirais-je que ces trois-là vécurent heureux pour toujours ? Non, je n'en ferai rien, car personne ne vit heureux pour toujours. Mais il y eut du bonheur, du vrai, et ils vécurent. Sous le glam fluide et parfois éclipsé du rayon qui relie Chardic l'ours à Mathurin la tortue en passant par la tour sombre, ils vécurent. C'est tout. C'est assez. Dites grand merci. Coda. Trouvé. 1. J'ai dit mon récit et je l'ai mené jusqu'à sa fin et j'en suis satisfait. Il était du genre, et j'en jurerais par ma montre et mon billet, que seul un dieu magnanime pouvait sauver, un récit rempli de monstres et de miracles, et de voyages entre les mondes. À présent, je peux m'arrêter, lâcher mon stylo et reposer ma main lasse, mais peut-être pas pour toujours. La main qui raconte des récits a une volonté propre et une tendance à ne pas tenir en place. Je peux refermer les yeux sur l'entre-deux-monde et tout ce qui s'étend au-delà de l'entre-deux-monde. Cependant, certains parmi vous qui ont tendu l'oreille, cette oreille sans laquelle nul récit ne survivrait un seul jour, n'ont probablement pas le même désir. Vous êtes de ceux, sinistres et intéressés, qui refusent de croire que le plaisir est plus dans le voyage que dans la destination. Peu importe combien de fois on vous a prouvé le contraire. Vous, les malchanceux qui confondez encore le fait de faire l'amour et les misérables gouttes qui mettent fin à l'acte sexuel. Après tout, l'orgasme n'est-il pas le moyen choisi par Dieu pour nous dire que c'est fini, du moins pour l'instant, et qu'on peut aller se coucher? Vous, les cruels qui reniez les cieux gris où les personnages vont trouver repos. Vous dites vouloir savoir comment ça finit. Vous dites vouloir suivre Roland à l'intérieur de la tour. Vous dites avoir payé pour ça, que c'est ce spectacle-là que vous êtes venu voir. J'espère que la majorité d'entre vous a plus de bon sens, plus d'ambition. J'espère que vous êtes venu entendre ce récit et non pas vous tailler un chemin jusqu'à la fin de l'histoire à coups de dents. Si c'est la fin que vous voulez... Vous n'avez qu'à tourner la dernière page et voir ce qui est écrit dessus. Mais les fins sont cruelles. Une fin est une porte close qu'aucun homme ni aucun mani ne peut ouvrir. J'en ai écrit un grand nombre, mais pour résumer, guidé par la même impulsion qui fait que j'enfile un caleçon le matin avant de quitter ma chambre, parce que ça fait partie des usages. Ainsi, mon cher fidèle lecteur, laissez-moi vous dire ceci. Vous pouvez vous arrêter ici. Vous pouvez choisir que votre dernier souvenir soit une vision d'Eddie, de Susanna et de Jake au milieu de Central Park, à nouveau réunis pour la première fois, écoutant le chœur d'enfants chanter « What Child Is This ?». Vous pouvez vous réjouir d'apprendre que tôt ou tard, au thé, sans doute une version canine à long cou, avec de magnifiques yeux cerclés d'or et des aboiements qui ressemblent parfois étrangement à des mots, fera son apparition dans le tableau. C'est un beau tableau, n'est-ce pas? Moi, je trouve, en tout cas. Et on n'est pas loin du « ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour ». Pas mal, ça peut le faire, comme dirait Eddie. Si vous poursuivez votre lecture, vous serez certainement déçu. Peut-être même aurez-vous le cœur brisé. Car il me reste une clé accrochée à la ceinture, mais tout ce qu'elle ouvre, c'est la porte ultime, celle portant les symboles Oxo-Ox. Ce qui se trouve derrière n'améliorera pas votre vie amoureuse, ne fera pas repousser des cheveux sur votre calvitie et n'allongera pas votre espérance de vie de 5 ans, pas même de 5 minutes. Une fin heureuse. Ça n'existe pas. Jamais je n'en ai vu une qui soit à la hauteur d'un « il était une fois ». Les fins sont cruelles. La fin, c'est juste un synonyme d'adieu. 2. Ainsi, vous le voulez toujours? Très bien. Venez donc, dans ce cas, vous avez entendu mon soupir. Voici la tour sombre, aux confins du monde ultime. Voyez-la, je vous prie, voyez-la bien. Voici la tour sombre, au crépuscule. 3. Il vint à elle avec un singulier sentiment de réminiscence. Ce que Susanna et Eddie appelaient le déjà-vu. Les roses de Cancanoré s'ouvrirent devant lui, formant un passage jusqu'à la tour sombre, les soleils jaunes lovés en leur cœur semblant le regarder comme des yeux. Et tandis qu'il cheminait vers cette colonne gris-noir, Roland se sentit glisser hors du monde, tel qu'il l'avait toujours connu. Il appela le nom de ses amis et des êtres chers disparus, comme il s'était toujours promis de le faire. Il les énonça, dans le crépuscule, d'une voix forte et claire, car il n'y avait plus lieu de réserver cette énergie avec laquelle il devait combattre l'appel magnétique de la tour. Céder, enfin, fut le plus grand soulagement de toute sa vie. Il clama le nom de ses compadres et de ses amores, et bien que chacun fût monté du plus profond de son cœur, il se sentit aussi détaché de tous. Sa voix cascada au loin, vers l'horizon rouge qui s'assombrissait, nom après nom. Il appela Eddie et Susanna. Il appela Jake, et pour finir, il clama son propre nom. Quand le son de sa voix se fut tu, l'appel tonitruant d'un énorme corps lui répondit, montant, non pas de la tour, mais des roses qui tapissaient le champ s'étendant à ses pieds comme un tapis rouge. Ce corps, c'était la voix des roses qui lui souhaitait la bienvenue dans la liesse en un cri de roi.
Dans mes rêves, j'avais encore ce corps. Il était encore mien, se dit-il. J'aurais dû me rappeler que le mien se perdit avec Cuthbert à Jericho Hill.
Une voix murmura au-dessus de lui.
Cela t'aurait pris 3 secondes de te pencher pour le ramasser, même au milieu de toute cette fumée et de toute cette mort. 3 secondes. Le temps, Roland,
On en revient toujours à ça. » C'était la voix du rayon, se dit-il, de celui qu'ils avaient sauvé. Si c'était par gratitude qu'il s'exprimait, il aurait pu s'économiser cette peine, car quel bien de telles paroles pouvait-elle faire au pistolero désormais? Il se remémora un vers tiré du poème de Browning. Le goût furtif des temps anciens guérit de tout. Mais il n'en avait jamais été ainsi pour lui. Dans son expérience à lui, les souvenirs n'apportaient que de la tristesse. Ils étaient le pain des poètes et des idiots, des friandises qui laissaient un arrière-goût amer dans la bouche et dans la gorge. Roland s'immobilisa un instant alors qu'il se trouvait encore à 10 pas de la porte de bois fantôme au pied de la tour, et il laissa la voix des roses, ce corps accueillant, se perdre en échos de plus en plus lointains. Le sentiment de déjà-vu était encore fort, presque comme s'il était déjà venu en ces lieux. Et bien sûr qu'il était déjà venu, dans 10 000 rêves prémonitoires. Il leva les yeux vers le balcon sur lequel le roi cramoisi s'était tenu, prétendant défier le cas et lui bloquer le passage. Et là, environ 2 mètres au-dessus des caisses contenant les derniers vifs d'argent, le vieux fou n'avait finalement pas d'autres armes, semble-t-il. Il vit 2 yeux rouges, flottant dans l'air assombri, l'écrasant de leur haine éternelle. Derrière les globes, le filament argenté du nerf optique, teinté de rouge orangé à la lueur du soleil couchant, restait suspendu, ne se rattachant à rien. Le pistolero songea que les yeux du roi cramoisi demeureraient sans doute ainsi jusqu'à la fin des temps, à surveiller Cancanoré alors que leur propriétaire parcourrait le monde dans lequel l'avait envoyé la gomme de Patrick et l'œil de cet artiste enchanté. Ou, plus vraisemblablement, dans l'espace entre les mondes. Roland s'avança jusqu'à l'extrémité du chemin où se dressait le bloc noir de bois fantôme cerclé d'acier. Gravé dans le bois, le sigle qu'il connaissait désormais si bien se détachait dans le quart supérieur. Oxo-ox. Là, il déposa 2 choses, ce qui restait de son guna. La croix d'argent de Tantine Talita et le 6 coups qu'il avait gardé. Lorsqu'il se releva, il vit que les 2 premiers hiéroglyphes s'étaient effacés. « O-Ox ». Dérobé était devenu « Robé », qui signifiait « trouver ». Il leva la main comme pour frapper, mais la porte s'ouvrit d'elle-même avant qu'il ait pu la toucher, révélant les premières marches d'un escalier en spirale qui disparaissait à perte de vue dans les hauteurs de la tour. Une voix soupira. « Bienvenue, Roland, descendant de la lignée de l'aîné. » C'était la voix de la tour. Cet édifice n'était pas de pierre, même s'il en avait l'apparence. La tour était vivante. Elle était Gan lui-même, sans doute. Et cette pulsation qu'il avait sentie au plus profond de son cerveau, même à des milliers de lieues de là, était et avait toujours été la force de vie de Gan qui battait comme un cœur. Comala, pistolero, comme à Comala. Et il sentit une bouffée d'alcali, amère comme les larmes, lui effleurer les narines. L'odeur de... De quoi exactement? Avant qu'il ait pu la nommer, l'odeur s'était envolée, laissant Roland dans le doute, croyant qu'elle avait surgi de son imagination. Il pénétra à l'intérieur et le chant de la tour qu'il avait toujours entendu, à Gilead déjà, où il s'était caché dans la voix de sa mère lorsqu'elle lui chantait des comptines au berceau, se tut enfin. Il y eut un autre soupir. La porte claqua derrière lui dans un grand fracas, mais il ne fut pas laissé dans l'obscurité.
La lumière qui baignait son visage fusait par les fenêtres qui serpentaient à flanc de tour et réverbérait l'embrasement du soleil couchant. Des escaliers de pierre, un passage à peine assez large pour une personne, l'attiraient vers l'ascension.
« Voici venu Roland, » claironna-t-il, et ses paroles parurent se perdre en spirale dans l'infini. « Toi au sommet, entends-moi et accueille-moi en ami, si tu le veux bien. Et si tu es mon ennemi, sache que je viens désarmé et sans intention de nuire. »
Il entama son ascension. Les 19 premières marches le menèrent à un palier, et ainsi de suite, toutes les 19 marches. Une porte ouverte y apparut, et au-delà, une petite pièce ronde. Ces murs de pierre étaient gravés de milliers de visages se chevauchant les uns les autres. Il en reconnut bon nombre. L'un des personnages était Calvin Tower, jetant un regard narquois au-dessus d'un livre ouvert. Les visages étaient tournés vers lui, leurs yeux le fixaient, et il entendit leur murmure.
« Bienvenue,
Roland, homme de maintes lieux et de maints mondes. Bienvenue à toi de Gilead, à toi de la lignée de l'aîné. » À l'autre bout de la pièce se dressait une porte, et à 1,50 m au-dessus de cette porte, à la hauteur exacte de ses yeux, il vit une petite fenêtre ronde, à peine plus grande qu'un hublot de contrebandier. Il sentit une odeur sucrée qu'il reconnut cette fois sans peine. Le parfum de sève de pin du sachet que sa mère avait placé d'abord dans son berceau, puis plus tard dans son premier vrai lit de grand. L'odeur amena ses jours anciens avec une clarté fulgurante, comme c'est le propre des odeurs du passé. S'il est bien un royaume qui sait nous transporter comme une machine à remonter le temps, c'est celui des parfums. Puis, comme l'appel amer de l'alcali, celui-là s'évanouit à son tour. Pas de meubles dans cette pièce, mais un seul objet gisant sur le sol. Il s'en approcha et le ramassa. Il s'agissait d'une petite attache en bois de cèdre, accrochée à un petit ruban de soie bleue. Il en avait vu du même genre bien des années auparavant à Gilead. Il avait même dû en porter une à son époque. Lorsque le chirurgien coupait le cordon ombilical d'un nouveau-né, ses parents, mère et enfant, ont placé ce genre d'attache au-dessus du nombril du bébé où on l'a laissé jusqu'à ce que le reste du cordon tombe, et avec lui la petite pince. On appelait le nombril lui-même « Tetkakangan ». Le petit morceau de ruban de celui-ci indiquait qu'il avait appartenu à un garçon. Les anneaux destinés aux petites filles étaient ornés d'un ruban de soie rose.
« C'est le mien, » songea-t-il.
Fasciné, il le contempla encore quelques secondes, puis le reposa soigneusement là où il l'avait trouvé. En se relevant, il vit le visage d'un bébé.
« Est-ce que ce serait mon babo chéri ?
Si tu le dis, qu'il en soit ainsi. » Parmi la multitude des visages. Ses traits étaient tordus, comme si sa première inspiration hors de la matrice ne lui avait pas plu, comme si l'air était déjà vicié par l'odeur de la mort. Bientôt il énoncerait sa sentence en poussant un braillement qui résonnerait dans les appartements de Stephen et de Gabriel, provoquant chez les amis et les domestiques qui l'entendraient un sourire de soulagement. Seul Martin Lagercape se renfrognerait. La mise au monde était achevée, et c'était un enfant vif, disons grand merci à Gan et à tous les dieux. La lignée d'Eld, la lignée d'Arthur l'aîné, avait désormais son héritier, par conséquent il restait une chance infime que la course en avant du monde vers sa perte soit inversée. Roland quitta cette pièce. L'impression de déjà-vu plus prégnante que jamais. De même que son impression d'avoir pénétré dans le corps même de Gan. Il se tourna vers les escaliers et se remit à monter. 4. 19 marches plus haut, il déboucha sur un deuxième palier et une deuxième chambre. Dans celle-ci, des lambeaux de vêtements étaient éparpillés sur le sol circulaire. Rolint ne douta pas une seconde qu'il s'agissait là des restes de l'ange d'un nourrisson, réduit à l'état de chiffon par un certain intrus très véhément, qui s'était ensuite rendu sur le balcon pour contempler de nouveau le champ de roses, et qui s'était retrouvé piégé. C'était là une créature d'une fourberie magistrale, pleine d'une sagesse diabolique. Mais elle avait fini par trébucher, et elle devrait le payer pour les siècles des siècles.
Si c'était seulement pour jeter un œil dehors, pourquoi aurait-il emporté ses munitions avec lui en sortant? Parce que c'était son seul guna, et qu'il le portait en bandoulière sur le dos, murmura la voix d'un des visages gravés dans une courbe du mur. C'était le visage de Mordred. Rolint n'y lut aucune trace de haine, mais la tristesse esselée d'un enfant abandonné. Ce visage était celui d'un être aussi désolé que le sifflet d'un train par une nuit sans lune. Il n'y avait point eu d'anneau de cèdre pour le nombril de Mordred lorsqu'il était venu au monde. Rien d'autre que cette mère dont il avait fait son premier repas. Pas d'anneau. Jamais de la vie, car Mordred n'avait jamais fait partie du tête de Gan. Non, pas lui. Mon père rouge n'irait nulle part sans armes, chuchota le garçon de pierre. Pas après avoir quitté son château. Il était peut-être fou, mais pas fou à ce point-là. Dans cette pièce, l'odeur était celle du talc que sa mère lui appliquait sur la peau alors qu'il était allongé nu sur une serviette, fraîchement sorti du bain, en train de s'amuser avec ce nouveau jouet tellement fascinant, ses propres doigts de pied. Elle adoucissait ainsi sa peau, chantant tout en le caressant « Petit oiseau, bébé adoré, amène donc ici ton panier. Va, cours, vole, et rapporte de quoi remplir ton panier. » Une fois encore, l'odeur disparut aussi vite qu'elle était apparue. Rolint se rendit au petit œil de bœuf, se frayant un chemin entre les morceaux de couche, et regarda à travers. Les yeux désincarnés sentirent sa présence et roulèrent furieusement en arrière pour le regarder. Ce regard était empoisonné par la fureur et le deuil.
« Viens donc, Rolint, sors, sors et affronte-moi à un contre un, d'homme à homme, œil pour œil si ça te sied. »«
Je crains que non, » répondit Rolint, « car j'ai encore une tâche à accomplir. » Encore du travail, même en cet instant.
Telles furent ses dernières paroles au roi cramoisi. Bien que le vieux démon continuât de lui hurler ses pensées, il hurla dans le désert, car jamais Rolint ne se retourna. Il avait encore des marches à gravir, d'autres pièces à inspecter sur le chemin qui le menait au sommet. 5. Sur le troisième palier, il regarda par l'embrasure de la porte et aperçut une tenue en velours côtelé qui avait sans nul doute été la sienne, quand il n'avait qu'un an. Parmi les visages gravés sur ce mur, il vit celui de son père, mais en beaucoup plus jeune qu'il l'avait jamais connu. Plus tard, ce visage avait pris un air cruel. Les événements et les responsabilités en avaient décidé ainsi. Mais pas ici. Ici, les yeux de Stephen Deschêne étaient ceux d'un homme qui regarde un spectacle qui lui plaît plus que tout ce qu'il a vu jusqu'ici ou qu'il verra ensuite. À cet instant, Rolint sentit un arôme doux et voilé, celui du savon à barbe de son père. Une voix fantomatique chuchota «
Regarde, Gabi, regarde donc. Il sourit, il me sourit à moi. Il a une nouvelle dent. »
Sur le sol de la quatrième chambre, il trouva le collier de son premier chien, Ringa Levio. Ringo pour les intimes. Il était mort quand Roland avait 3 ans, ce qui avait été un cadeau en un sens. À 3 ans, un garçon peut encore pleurer la perte d'un animal familier, même un garçon avec le sang d'Arthur l'aîné dans les veines. Et le pistolero sentit une odeur merveilleuse, mais impossible à nommer. Et il sut que c'était l'odeur du soleil de la pleine terre dans la fourrure de Ringo. Environ 2 douzaines d'étages au-dessus de la pièce de Ringo, il tomba sur des miettes de pain éparpillées au sol, ainsi que sur un petit tas de plumes qui avait autrefois appartenu à un faucon du nom de David. Pas un animal familier, lui, mais bel et bien un ami. Le premier des nombreux sacrifiés de Roland à la tour sombre. Sur un pan de mur, Roland vit David sculpté en plein vol, ses ailes courtaudes éployées au-dessus de tous les membres de la cour de Gilead, à l'exception de Martin l'enchanteur. Sur la gauche de la porte menant au balcon, David était à nouveau représenté. Cette fois-ci, il avait les ailes repliées, alors qu'il fondait sur Corte comme une balle vivante, sans se soucier du gourdin brandi par le vieil instructeur. Les temps anciens. Les temps anciens et les crimes passés. Non loin de Corte apparaissait le visage rieur de la prostituée avec laquelle le garçon s'était amusé cette nuit-là. Ce parfum dans la pièce de David, c'était le sien. Sucré et bon marché. En en remplissant ses narines, le pistolero se rappela avoir touché une boucle de la toison pubienne de la femme. Et le souvenir qui lui revint le choqua autant que l'avait choqué l'association d'images qu'il avait faite, tandis que ses doigts glissaient vers sa fente douce et humide. Il s'était revu bébé, à la sortie du bain, entre les mains de sa mère. Il sentit monter une puissante érection et, pris de peur, quitta la pièce. 6. La lumière rouge qui éclairait son chemin avait disparu, et ne demeurait que l'éclat bleu roi tombant des vitraux. Des yeux de verre vivants, des yeux de verre qui observaient cet intrus désarmé. À l'extérieur, autour de la tour sombre, les roses de Cancanoré s'étaient refermées sur le jour finissant. Une partie de son esprit s'émerveillait de se trouver ici, d'avoir réussi à surmonter un à un tous les obstacles qui s'étaient dressés sur son chemin avec cette inépuisable opiniâtreté.
« Je suis comme un robot des grands anciens, » se dit-il, qui accomplit la tâche pour laquelle il a été programmé, ou bien qui se tuera à l'ouvrage en essayant.
Cependant, une autre partie de lui n'était pas surprise du tout. C'était la partie qui rêvait comme devaient le faire les rayons mêmes, et cet être plus sombre repensa au corps tombé des mains de Cuthbert. Cuthbert, qui était allé à la mort en riant. À ce corps qui devait aujourd'hui encore gésir là où il avait chu, sur la pente rocailleuse de Jericho Hill.
Et j'ai déjà vu ces pièces, cela va de soi. Après tout, c'est ma vie qu'elle raconte.
C'était sa vie, en effet. Étage après étage, histoire après histoire, sans oublier mort après mort. Les pièces de la tour, de plus en plus haut perchées, racontaient la vie et la quête de Roland Deschaine. Chacune offrait un souvenir bien à elle, et son arôme qui en était comme la signature. Il avait souvent plus d'un étage consacré à une même année. Et après la 38e pièce, 38, soit le double de 19, si cela ne vous saute pas aux yeux, grand merci. Il ne souhaita pas en voir plus, car dans cette pièce se dressait le bûcher calciné sur lequel avait péri Suzanne Delgado. Il n'entra pas dans la pièce, mais il regarda le visage sur le mur. Il lui devait au moins ça.
« Roland, je t'aime !»
avait hurlé Suzanne Delgado, et il savait que c'était la vérité, car seul son amour la rendait reconnaissable. Et amour ou pas, elle avait quand même brûlé.
« Ceci est un lieu de mort, » se dit-il, « et pas que cette pièce, toutes ces pièces, tous les étages. »«
Oui, pistolero, »
murmura la voix de la tour,
« mais seulement parce que ta vie est faite de mort. »
Et passé le 38e étage, Roland accéléra le pas. 7. De l'extérieur, Roland avait estimé la hauteur de la tour à 150 mètres environ. Mais en jetant un œil dans la 100e, puis la 200e pièce, il eut la conviction de les avoir déjà gravies 8 fois. Bientôt, il attendrait ce que ses amis du côté Amérique appelaient 1 kilomètre. Mais un tel nombre d'étages était inconcevable. Une tour 1 kilomètre de haut, impossible! Pourtant, il continua de grimper jusqu'à se retrouver presque à courir, et pas une seconde, il ne se sentit là. L'idée lui traversa l'esprit qu'il n'atteindrait peut-être jamais le sommet, que la tour sombre était peut-être infinie en hauteur et éternelle dans le temps. Mais après un moment de réflexion, il rejeta cette hypothèse, car c'était l'histoire de sa vie à lui que racontait la tour. Et même si cette vie a été longue, elle n'était en aucun cas éternelle. Et dans la mesure où elle avait eu un début, marquée par la tache en cèdre et le petit ruban de soie bleue, aussi aurait-elle une fin. Elle était proche maintenant, à n'en pas douter. La lumière qu'il sentait derrière ses yeux était à présent plus vive et plus aussi bleue. Il passa devant une pièce dans laquelle il aperçut Zoltan, l'oiseau du frontalier. Dans une autre, il vit la pompe atomique du relais. Il continua de gravir les marches, dépassa une pièce contenant une omarstruosité morte, et à ce stade, la lumière lui parut beaucoup plus éclatante et plus bleue du tout. Il était presque certain que c'était la lumière du soleil. On devait être après le crépuscule, car le vieil astre et la vieille mère s'étaient levés. Pourtant, Roland était certain que ce qu'il voyait, ou sentait, c'était la lumière du soleil. Il poursuivit son ascension sans plus regarder à l'intérieur des pièces, ni prendre la peine de sentir ses arômes du passé. L'escalier se rétrécit progressivement jusqu'à ce que ses épaules en arrivent presque à toucher les parois de pierre incurvées. Plus de chant à présent, sauf si on considérait le vent comme un chant, car il l'entendait murmurer. Il franchit une ultime porte. Sur le sol de la pièce minuscule qui se trouvait derrière, il vit un dessin, un portrait dont le visage avait été effacé. Tout ce qui restait, c'était 2 yeux rouges, lançant un regard noir.
J'ai atteint le présent. J'ai atteint maintenant.
Oui, et il y avait bien du soleil comme alla à l'intérieur de ses yeux et qui l'attendait. Chaud, rude sur sa peau, le vent soufflait plus fort et ce son était rude lui aussi, implacable. Roland contempla l'escalier, sa courbe ascendante. Ses épaules allaient bel et bien toucher les murs car le passage n'était pas plus large qu'un cercueil. Encore 19 marches, et alors la pièce au sommet de la tour sombre serait sienne.
« Me voici, » s'écria-t-il. « Si tu m'entends, entends-moi bien. J'arrive. »
Il gravit les marches une par une, avançant le dos droit et la tête relevée. Alors que les autres pièces étaient ouvertes, celles-ci étaient fermées. L'accès en était clos par une porte de bois fantôme, avec un seul mot gravé au milieu. Ce mot était « Roland ». Il saisit le bouton. Une rose sauvage enroulée autour d'un revolver. Un des anciens revolvers de son père, et perdu pour toujours, apparaissait en filigrane sur le dessus.
Pourtant, il sera tien de nouveau.
Murmura la voix de la tour et la voix des roses. Ses voix n'étaient désormais plus qu'une.
« Que veux-tu dire ?»
Il ne reçut pas de réponse, mais le bouton tourna dans sa main, et c'était peut-être là sa réponse. Roland ouvrit la porte au sommet de la tour sombre. Il vit et comprit instantanément. Le savoir tomba sur sa conscience comme un coup de maillet aussi brûlant que le soleil de ce désert qui était l'apothéose de tous les déserts. Combien de fois avait-il gravi cet escalier pour se retrouver décollé, calciné, rebuté? Non pas renvoyé au tout début, où le cours des choses aurait encore pu être modifié et la malédiction du temps levée. Mais à ce jour dans le désert Moen, quand il avait fini par comprendre que sa quête indiscutable et irrationnelle allait être menée à son terme, à sa réussite, combien de fois avait-il cheminé en boucle, comme sur cet anneau de cèdre autrefois pincé au-dessus de son nombril, son propre tête-ka Kangan? Combien de fois cheminerait-il ainsi? « Oh non !» hurla-t-il. « Je vous en prie, pas encore. Pitié, un peu de pitié !» Les mains l'attirèrent à elle, insensible. Les mains de la tour étaient sans pitié. C'étaient les mains de Gan, les mains du Ka, et elles étaient incapables de pitié. Il sentit l'odeur d'alcali, aussi amère que les larmes. Au-delà de la porte, le désert était blanc, aveuglant, desséché, sans aucun relief, hormis le labyrinthe nuageux des montagnes qui se détachaient sur l'horizon. L'odeur sous l'alcali était celle de l'herbe du diable, des cauchemars et de la mort.
Mais pas pour toi, pistolero. Jamais pour toi. Toi, tu tombes roi. Tu te caméléones. Je peux te dire les choses franchement, brutalement. Tu vas de l'avant. Et chaque fois, tu oublies la fois précédente. Pour toi, chaque fois est la première fois.
Il fit un ultime effort pour reculer. En vain. Le cas était le plus fort. Roland de Gilead franchit la dernière porte, celle qu'il avait toujours cherchée, celle qu'il avait toujours trouvée. Elle se referma doucement derrière lui. 8. Vacillant sur ses pieds, le pistolero s'immobilisa quelques instants. Il crut d'abord qu'il allait s'évanouir. C'était à cause de la chaleur, bien sûr. Il y avait bien un souffle d'air, mais il était sec et ne lui apporta aucun réconfort. Il attrapa son outre, la soupesa pour jauger ce qu'il lui restait d'eau à l'intérieur, sut qu'il ferait mieux de ne pas boire, ce n'était pas l'heure de boire, et en prit néanmoins une gorgée. Pendant une seconde, il avait eu la sensation d'être ailleurs. Dans la tour même, peut-être bien. Mais le désert était retors et jalonné de mirages. La tour sombre se trouvait encore à des milliers de roues de là. Cette sensation d'avoir gravi des millions de marches, d'avoir inspecté des pièces dans lesquelles tant de visages l'observaient, cette sensation s'estompait déjà. « J'y arriverai, » se dit-il en plissant les yeux sous le soleil implacable. « Je le jure sur le nom de mon père, j'y arriverai. »
Mais peut-être que cette fois-ci, « si tu y arrives, il en sera autrement ?»
chuchota une voix. La voix du délire du désert, sans aucun doute, car de quelle autre voix pouvait-il bien s'agir? Il était ce qu'il était, là où il était, rien de plus que ça, rien de plus. Il n'avait aucun humour et très peu d'imagination, mais il était indéfectible. Il était pistolero. Et dans son cœur bien caché, il ressentait toujours l'appel romantique et amer de la quête.
« Tu es celui qui jamais ne change », lui avait dit Corte par le passé.
Et dans sa voix, Roland aurait juré entendre de la peur. Quant à savoir pourquoi Corte aurait bien pu le craindre, lui un gamin, Roland n'en avait aucune idée.
« Je serai ta damnation, mon garçon. » Tu useras une centaine de paires de bottes à cheminer jusqu'à l'enfer. »
Évané. Ceux qui ne se souviennent pas de leur passé sont condamnés à le revivre. Et sa mère,
Roland, Pourquoi faut-il toujours que tu sois si sérieux? Ne peux-tu jamais te reposer?
Pourtant, la voix se remit à chuchoter. Ce sera peut-être différent cette fois-ci. Il en sera peut-être autrement.
Et Roland eut réellement l'impression de sentir autre chose sous l'alcali et l'herbe du diable. Il crut sentir le parfum de fleurs. Il lui sembla que c'était des roses. Il balança son guna d'une épaule sur l'autre, puis toucha le corps qu'il portait à la ceinture, derrière le pistolet qui lui battait la hanche droite. Ce corps antique en cuivre qu'avait fait sonner Arthur l'aîné en personne, ou en tout cas, c'est ce que racontait l'histoire. Ce corps, Roland l'avait donné à Cuthbert Allgood, à Jericho Hill. Et lorsque Cuthbert était tombé, Roland avait pris juste le temps nécessaire pour le ramasser, repoussant la poussière de mort du carnage qui rampait déjà dans sa gorge.
« C'est ton sigle, »
murmura la voix assourdie qui brassait dans son souffle le doux parfum des roses ombragées. Le parfum de la maison, un soir d'été. Oh, perdu! Une pierre, une rose, une porte dérobée. Une pierre, une rose, une porte.
C'est la promesse qui t'est faite que tout sera peut-être différent, Roland. Qu'il y aura peut-être enfin le repos, peut-être même le salut.
Il y eut une pause, puis la voix conclut.
Si tu tiens droit, si tu es sincère.
Il secoua la tête pour s'éclaircir l'esprit, songea à reprendre une gorgée d'eau et se ravisa. Ce soir, quand il bâtirait son feu de camp sur les reliquats du feu de Walter, alors il boirait. Mais pour l'instant, il reprendrait sa route. Quelque part devant lui se dressait la tour sombre. Plus proche cependant, beaucoup plus proche se trouvait l'homme. Mais était-ce un homme? Était-ce vraiment un homme? Qui lui dirait peut-être comment s'y rendre? Roland le rattraperait, et alors cet homme parlerait. Si fait, oui. Oui, là. Raconte-le sur la montagne telle que tu l'entendrais dans la vallée. Walter finirait par être pris. Et Walter parlerait. Roland porta de nouveau la main à son corps, et la réalité de ce contact lui procura un réconfort étrange, comme s'il ne l'avait jamais touché auparavant.
Il est temps de se remettre en route.
L'homme en noir fuyait à travers le désert, et le pistolero le suivait. 19 juin 1970. 7 avril 2004. Je dis grand merci à Dieu. Appendice. Le chevalier Roland s'en vint à la tour noire. De Robert Browning. 1. Je pensais, il a menti en chaque mot. L'hideux infirme, de son œil qu'il disait voilé par le songe. De biais contemplait l'effet de ses mensonges. Sur moi, et sa bouche incapable de masquer les chaos, de sa liesse qui secouait et tordait son corbeau, devant l'agonie de la victime que la mort ronge. 2. Quel autre dessein eût pu animer ce menteur diabolique? De son bâton dressé tel un attrape-foudre furieux, il leurre, menace et séduit le curieux. Qui demande son chemin. Et ce rire satanique graverait, je n'en doute, l'épitaphe véridique, relatant ma venue en ces maudits lieux. 3. Si fort de ses conseils, je devais me détourner de ma route pour m'engager dans le sinistre chemin où, comme chacun le sait, se cache la tour noire. C'est pourtant sans remous et docile que je m'y aventurais, sans nulle fierté ni impatience ravisée de jamais entrevoir mon but tant convoité, ni même aucune fin, je n'avais cet espoir fou. 4.
Après avoir sillonné le vaste monde en entier et cherché en vain toutes ces longues années, qu'était-il advenu de ma quête, de ma foi déclinante, ces fantômes abattus? N'eusse pour porter le poids de cet espoir trop vif, plein de témérité. Et c'est à peine si je sus réprimer le bon enchanté que fit mon cœur, sentant la défaite venue. 5. Et lorsque le malade, approchant du trépas, sans commencer et finir les larmes de peine, et qu'adieu aux amis il doit dire, il entend l'un supplier l'autre de partir, retenir son souffle là, plus librement dehors, puisque tout est achevé, que la fin est là, et que le coup porté, aucun chagrin ne viendra adoucir. 6. Quand d'aucuns débattent, cherchant si place ils trouveront, entre les tombes moussues pour celles de ce vaillant, et si pour porter sa dépouille il est jour plus clément, et si, ayant soin des bannières, des écharpes et des tristes chansons, l'homme toujours entend tout, et une seule soif berce son cœur si bon, celle de ne pas faillir et trahir un amour si tendre en demeurant. 7. Ainsi, depuis si longtemps j'endurais cette quête insensée et voyais mon échec chanté dans poèmes et prophéties. Tant de fois parmi la troupe de ceux que choisit cet exil inouï, ces chevaliers qui à la tour adressèrent leurs pas et leurs rêves éthérés, qu'échouer comme eux me paraissait galvaudé. Mais certains, car qui pourrait lutter contre ce doute assassin? Et si j'étais au nid? 8. Et muet comme le désespoir qui m'étreignait, je me détournais de cet odieux estropié, je quittais son chemin pour porter mes pas dans celui qu'il vantait. Car ce jour sans fin m'avait été bien lugubre, et avant que de voir le soir tomber et le clore, je souffris le regard écarlate et mauvais qui ensanglante la plaine d'un éclat macabre et malin. 9. Qu'on m'entende, à peine m'étais-je promis le cœur loyal, à la plaine, au bout d'un pas ou deux, alors que je me retournais pour lancer un regard d'adieu, sur la route, bien sûr, qui m'avait mené en ce songe sans égal, elle avait disparu. Plus rien d'autre que les plaines grises et étales, à perte de vue, je ne pus que poursuivre, car quoi faire en ces lieux? 10. Aussi je marchais. Je ne crois pas avoir jamais, entrevu de mes yeux, nature plus affamée et ignoble. Rien n'y prospérait guère. Pas une fleur, comment rêver d'une cédrière? Tandis que le forbe et la chienlit, comme la loi le veut, se propageaient à l'envi, si bien qu'au cœur ainsi un peu de bardane égarée eût été une heureuse surprise, et bien légère. 11. Point. Pénurie, langueur et grimace. Bien étrange était le lot de cette affreuse terre. Vois où ferme les yeux, disait mère nature de son air, maussade. Rien ne veut fleurir, je ne puis même sauver la face. C'est le jugement dernier qui de ses flammes lavera cette place, qui en calcinera les mottes et de mes prisonniers rompra les fers. 12. Et si un chardon tout éplumé poussait là par hasard, se dressant au-dessus du lot, s'était décapité, car la grosse tide était jalouse ici, qui avait creusé ses trous et ses crevasses dans les orties, et les feuilles bistrées et rêches de la patience qui avaient tout réduit en friche chaotique, tuant pour espoir de verdure. Une brute, à n'en point douter, à l'âme noire, soufflant toute vie comme une chandelle, telle une bête sans merci. 13. Quant à l'herbe, elle poussait, il est vrai, aussi maigre que son pelage. Frappé de lèpre, des brins épars perçaient la boue, qui paraissait pétrie de sang par-dessous. Une rosse aveugle, dont chaque os saillait comme après le carnage, se tenait en stupeur frappée par un mirage, chassée du haras du diable même, à grand renfort de coups. 14. Vivant, l'animal à mes yeux pouvait avoir péri sans un pleur. Décharné, la carcasse saignant et d'un spectre ayant l'air, il gardait les yeux clos sous une immonde crinière, alliance incongrue du ridicule et de pareille douleur. Jamais je ne vis brute aussi digne d'être frappé de malheur. Il fallait qu'il fût bien maléfique pour mériter tel salaire. 15. Je fermai les yeux et les ouvris sur mon cœur. Comme un homme commandant le vin avant d'aller guerroyer, j'appelai de mes yeux une rasade de visions plus heureuses du passé, afin de retrouver l'espoir de jouer mon rôle en vainqueur. Penser d'abord et puis combattre, tout à l'art du soldat sa valeur, car le goût furtif des temps anciens guérit de tout, vrai. 16. Pas cela. Je ne pus détacher mon regard incertain de la face rougie de Cuthbert sous les boucles d'or. Cher compagnon, qui jadis fâché dans un ultime effort, glissa, je le sentis, son beau bras sous le mien. Car ainsi il était, tout sourire, même quand périt le bien, et avec lui mon cœur à peine éveillé dans le souffle du corps. 17. Et donc, l'âme de l'honneur, le voici debout là, si beau, aussi franc que 10 ans plus tôt, alors jeune chevalier, qu'un homme loyal vint le défier, dit-il, il saurait l'affronter. Dans les bonnes règles, mais voilà que glisse la scène, pas. Quel bourreau, a cloué sur son sein un vil parchemin, et ses propres compagnons de fourreau, de le lire. Pauvre traître, jouet des crachats et des colibets. 18. Plutôt ce présent qu'un passé qui s'offre tel. Me voilà de retour sur ma route assombrie. Aucun son, nulle vision, aussi loin que l'œil sans qui. Un hibou ou une chauve-souris, la nuit m'enverra-t-elle? Implorai-je, quand soudain sur la terre plane et lugubre une image nouvelle arrêta mes pensées et le cours j'en perdis. 19. En travers de ma route, soudain une rivière. Tel le serpent surgit par surprise, mais point de marée paresseuse et douce dans les ténèbres grises. Celle-là écumait et eût pu satisfaire le démon venu y baigner son sabot rougeoyant, à voir l'ardente colère de ces remous noirs éclaboussés d'écaillures et de mousse où l'on s'enlise. 20. Si insignifiante, et pourtant si venimeuse, sur ces berges austères, de bas aulnes rabougries venaient s'agenouiller près de l'eau agitée. Et saules détrempées les jetant tête baissée, en un mouvement de muet désespoir, foule suicidaire. Et le courant qui les torturait ainsi, nullement ému par leur calvaire, suivait sa route, pas un instant perturbé. 21. Et tandis que je passais à guet par tous les saints, comme je craignais, de poser pied sur la joue de quelque cadavre ou moribond, à chaque pas ou de sentir la lance de laquelle je sondais les fonds, prévenant les écueils prisonniers de sa chevelure ou de sa barbe serrée, un radeau sans doute que de mon bâton je réveillais. Mais Dieu, combien son cri rappelait le hurlement d'un nourrisson. 22. Et je fus trop heureux de gagner la berge opposée, le pays paraissait plus clément. 20 présages. Qui étaient les combattants? Quelle guerre menaient-ils? Quel en était le visage? quel piétinement sauvage était venu écraser le sol détrempé en un frais clapotis. Crapauds en leur cuve empoisonnée ou chats sauvages dans leur rougeoyante cage. 23. Ainsi paraissaient les traces d'un antique combat en ce décor sauvage. Qui les confinait là, quand toute la plaine s'offrait à eux? Nulle trace de pas ne menait à ce miaulement vénéneux, aucune ne s'en éloignait. Immonde saumure à l'ouvrage, leur cerveau, nul doute, comme le Turc son galérien qui l'a fait esclave, appelle son divertissement, chrétien contre juif, en un combat odieux. 24. Et plus que cela, à un furlong, si près, juste là, vraiment. À quel funeste usage ce moteur, cette roue était-il réservé? Ou plutôt ce frein, cette herse faite pour tourner, pour rouler et filer les cadavres comme la soie avec l'air insouciant de l'outil du topet, laissé sur terre comme par égarement ou pour affûter ses dents rouillées d'acier. 25. Puis apparut une lande piétinée, jadis un bois étrange, puis marécage semblait-il. Et enfin, simple terre désolée et stérile, l'idiot y trouvera raison de se gausser à créer une chose puis à la gâter, jusqu'à ce que d'humeur il change. Et le voilà reparti, en un quart d'arpent sombre mélange, de marais d'argile et de décombres, et de désolation amère et dépeuplée. 26. D'impudentes taches, d'un gris sinistre coloré, des aplats où le sol ras, maigre pitance, laissait place à la mousse, pareille à des furoncles, abjecte substance. Puis surgit un chêne paralysé, en son sein une profonde fissure creusée, telle une bouche distordue, fendue, déchirée, suffoquant, aspirant la mort et mourant dans une ultime transe. 27. Et toujours aussi loin de la fin. Rien d'autre à l'horizon que le crépuscule, rien qui vienne l'œil rassurer, ou le pas guider. À cette pensée, je vis un grand corbeau, ami de cœur d'Apollyon, l'ange de l'abîme sans fin. Passé au-dessus de moi, son aile vaste de dragon dans son vol hautain, m'effleura le chef. Peut-être cherchais-je à me faire inviter. 28. Car levant les yeux, malgré moi, je pus voir, je le pus, en dépit des ténèbres, que la plaine avait cédé la place, alentour aux montagnes. Les appeler ainsi était trop de grâce, ces hauteurs bien laides, vagues bosses vite dérobées à ma vue. Pourtant combien elle m'avait surpris, aller résoudre ce mystère ardu. Comment m'en empêcher? Pas d'indice. Comment faire face? 29. Pourtant, je crus reconnaître quelques ruses à demi, quelques malices déjà survenues. Dieu seul savait quand, en cauchemar peut-être, cette malice prit fin. Et tout en la voyant s'éloigner, je poursuivis ma route, mais bien près de céder au renoncement et à l'oubli. Je fus une fois encore éveillé de cet insidieux ennui, comme lorsqu'au bruit d'une trappe qui claque, vous vous savez piégé, non plus dehors, mais dedans. 30. Tout m'assaillit à la fois en un embrasement mémorable. C'était bien là ce lieu, ces deux collines sur la droite couchées, accroupies telles deux taureaux, cornes soudées en leurs joutes acharnées, tandis qu'à gauche une haute montagne rasée. Je me trouvais pitoyable, cancre, abasourdi, pétrifié par l'instant inestimable, après toute une vie passée à esquisser cette vision dans mon œil entraîné. 31. Et au centre, quoi d'autre que la tour unique, Tourelle ronde et trapue, aussi aveugle que le cœur de l'idiot ahuri. Bâtie de pierre brune et sans jumelles dressées à côté, seule surgit, seule au monde de son espèce. Ainsi l'elfe moqueur de la tempête fatidique désigne au capitaine l'obstacle invisible, l'écueil dramatique, sur lequel il viendra déchirer son navire au premier soubresaut ressenti. 32. Nulle vision telle? À cause de la nuit, peut-être. Pourtant, le jour reparut, j'attendis la lumière, avant que de la voir pâlir, fugace. Le crépuscule mourant vint rougeoyer à travers une crevasse. Les collines, telles des géants assistant à la chasse, bien repues, le menton dans la paume, observaient le gibier aux abois, perdu. Que d'un coup de dague on achève la bête, droit au cœur, qu'on la terrasse. 33. Aucun son, quand le bruit était partout, et j'entendis le carillon croître à mon oreille. Ces noms à mon oreille tendue, ceux d'aventuriers perdus. Mes pères, celui-ci était si fort, celui-là si hardi, et l'autre si chanceux, et tous, vieux amis enfuis, perdus, perdus. Un instant sonna le glas du malheur des ans déchus. 34. Tous, debout là, alignés le long des collines réunies, pour me voir avant le grand départ, cadre vivant et plein d'espoir d'un ultime tableau, sur une feuille en flamme dans le soir, je les vis. Tous, je les reconnus. Et c'est alors qu'en un geste infini, intrépide, je portais à mes lèvres mon corps béni et sonnais. Le chevalier Rolante s'en vint à la tour noire.